Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous. Et oui, on est ensemble à la suite des informés d'Adil Farkan. 19h-20h, un petit peu de retard, mais on est toujours là, 20h pétante. Au menu de cette émission Time Sport, votre quotidien sportif sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, en ce jeudi 3 mars 2022, excusez-moi. On reviendra tout simplement sur cette Coupe de France. Et oui, Monsieur Camboiré, il a fait et il emmène Nantes en finale face aux Aiglons niçois cette année. Leonardo qui tacle, entre autres, Zlatan Ibrahimovic et assume pour Sergio Ramos. Et aussi du football anglais, quel avenir pour Chelsea sans Abrahamovic, son président. N'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000, si vous voulez réagir sur l'antenne de Beurre FM. Yannis, notre réalisateur Europe, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Ce soir, un invité de prestige, Monsieur Karl Olive, maire de Poissy, ancien journaliste sportif, sera avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Alors, on va commencer cette émission avec le JT Sport qui nous a été réalisé par Jason. C'est parti, Google Time Sport.
Time Sport.
Oui, on démarre les infos du jeudi par les résultats de l'Angleterre. Ça passe pour Chelsea, vainqueur 3 buts à 2 sur la pelouse de Luton Club de D2. Idem pour Liverpool, qui bat Norwich 2 buts à 1 à Anfield. Et enfin Southampton, qui s'offre West Ham 3 buts à 1 avec un superbe but au passage du français Romain Perrault. En football, toujours Marco Verratti rattrapé par la patrouille suite à ses propos envers l'arbitrage de Nantes PSG. L'Italien sera donc suspendu pour 2 rencontres de Ligue 1. Et enfin, un mot de l'adversaire du PSG, justement, en Ligue des Champions, le Real Madrid, qui pourrait voir Toni Kroos manquer le choc mercredi prochain au Bernabeu suite à une douleur aux ischio-jambiers qui privera déjà l'Allemand du match face à la Real Sociedad ce week-end en Liga. En basket, l'équipe de France féminine connaît ses adversaires pour la Coupe du Monde. Les Bleus iront défier dans le groupe B, le Japon, le Canada, le Nigeria, la Serbie et enfin l'Australie, le pays hôte de la compétition. Et on termine avec un mot de Formule 1. Max Verstappen prolonge son contrat avec l'écurie Oracle Red Bull Racing jusqu'en juin 2028, accompagné d'un démentiel salaire annuel estimé à environ 50 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour les infos de ce jeudi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Merci Jason. Voilà, ce soir avec nous, on aura qui? On aura l'équipe Time Sport, hein, la personne de Boula. Comment ça va Boula?
Alhamdulillah.
Ah ben ça va. Ouais, tout comme la fouine. C'est ça, le coach Tolé juste à côté.
Eh ben écoutez, ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous.
Ah ben nous aussi, le coach Tolé avec Abdel. Comment ça va Abdel?
Ça va Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là comme d'habitude.
Eh ben nous aussi, de t'avoir avec nous. Abdel nous avait manqué, un petit clin d'œil à Sarah, sans oublier aussi Fred qui sera avec nous demain. Et aussi Fala qui nous écoute ce soir. Il est sur le périphérique, lui, Claude Tollet.
Il est toujours sur le périph', il dort sur le périph', il mange sur le périph', il rappe sur le périph'.
Ah ben c'est pas mal aussi.
C'est la famille.
Eh oui, c'est la famille, Fala. Il aime beaucoup Boula en plus, Fala. Il te passe bien le bonsoir. On va s'attarder sur le premier sujet de cette émission, allez, concernant les Canaries.
Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Plaisir à Didier Kim. 2 buts partout et après séance de tir au but, 4 buts à 2 pour les Nantais. Et oui, en finale donc de cette fameuse Coupe de France, Abdel. Ils rencontreront les Niçois.
Ouais, ouais, ça a été un match hier plutôt intéressant pour une demi-finale de Coupe de France. Ça allait quand même à 2000 à l'heure, je trouve. Ça répondait coup à coup de
vrai match de coupe. Hein.
Ouais, vraiment. Et je pense que hier, Nantes, avec la force de caractère, et on va parler d'Antoine Comboiré après, a su faire la différence, a su à chaque fois revenir au score et même passer devant, et a su se concentrer dans la séance fatidique des tirs au but. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est mérité pour le club qui a connu des difficultés et des déboires sur les dernières saisons où les résultats n'étaient pas forcément là, même s'il y avait des coachs qui étaient plus ou moins intéressants. Je pense qu'il manquait un peu cette poigne et cette force de caractère que Antoine Comboiré a amené à ce groupe qui est un mélange de jeunes et de joueurs plus expérimentés. Donc voilà, ça va laisser promettre une belle finale entre Nice et entre Nantes. Et voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à ces deux coachs parce que je trouve qu'on parle pas souvent de Comboiré notamment. Et là, le fait qu'il soit là, qu'il arrive à sortir le plein de qualité de ses joueurs, chose que certains n'ont pas réussi à faire par le passé. C'est super impressionnant et c'est quelqu'un qui mérite de par son parcours. C'est pas quelqu'un qui est là juste pour jouer des maintiens ou des dernières places. Faut se rappeler à Valenciennes, à Lens, même à Strasbourg, même au PSG. qu'il a fait de très belles choses. Donc moi, je le félicite et je félicite Nantes.
Allez, je sais, c'est ce qui coule dans mes veines. C'est ce que j'expliquais aux joueurs. Gagner beaucoup d'argent, c'est bien, mais c'est personnel. Avoir une belle voiture, Boula, c'est personnel, ce qu'on vit là, de partager des émotions, le coach Tolé, de partager aussi des grands moments ensemble, de sentir qu'il y a une famille, des liens, une complicité, une communion entre le public et les joueurs. C'est pour cela que je fais ce métier.
Moi, connaissant bien Antoine, l'histoire de Antoine, c'est l'histoire du FC Nantes, déjà pour commencer, parce qu'il a, il a été formé à Nantes. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'il a pu construire en deux ans, c'est toute l'histoire de la formation nantaise. Et je pense qu'il a, il maîtrisait son sujet avec ce groupe qui n'a pas changé de l'année dernière, où qui a eu pas mal de problèmes avec pas mal de coachs, et c'était pas les coachs qu'il fallait. Finalement, ils ont réussi, le président Kita a réussi à trouver le coach qu'il fallait, d'Antoine Combaré, et il lui a donné les clés de la gestion. Et ce qui est bien, c'est que dans cette gestion, c'est lui qui est commandé, et personne s'immisçait dans son travail. Et quand on laisse faire l'entraîneur pour s'immiscer dans le travail qu'il avait à faire, ramener le FC Nantes en finale de la Coupe de France, c'est vraiment un travail football français. L'entraîneur, il a fait toutes ses classes dans le football français. Et quand tu regardes Nice, pareil pour Galtier, c'est vraiment le produit du football français qui est en avant sur cette finale. Et c'est ce que je retiens dans le football que nous on vit actuellement depuis 30 ans. On voit vraiment qu'il y a vraiment des vrais constructeurs et des vrais formateurs.
On a des réactions, justement. Nawaz qui nous écoute. Quand Boiré, il faut le respecter. Voilà, un auditeur qui nous dit ça. Le coach Tolé est d'accord avec ça. On va passer du côté du Standard, après, rapidement, avec Farid.
Ouais, mais c'est vrai que Antoine Comboiré, je suis un petit peu sa carrière d'entraîneur. Il semblait, alors, de loin, être un petit peu dans le dur, mais ce n'est que des images. Hein. Tu sais, nous, on est là à réagir en fonction des images et on dit que lorsqu'il avait pris notamment, il avait eu Dijon, il a eu des clubs, le cas c'était un peu plus compliqué où il a été obligé de jouer le maintien. Mais comme l'a dit Abdel, il a montré dans son parcours en tant qu'entraîneur que c'est simplement un grand coach. Et le fait là de redresser le FC Nantes, faut pas oublier qu'il y a de cela un an, c'était un certain Raymond Domenech qui était sur le banc, et là ça tournait vraiment au vinaigre du côté de la Genolière. On craignait même une descente en Ligue 2. Franchement, il a fait un vrai travail là-dessus. Et puis, comme l'a dit Boula, qui le connaît bien, c'est que, alors j'espère que c'est confirmé, mais pour une fois, quitte à laisser les clés, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même de bons entraîneurs qui sont passés, hein. Je donne Ali Ludzik en exemple, Kansao qui est passé également, pour ne citer que. Et malheureusement, la maison nantaise, depuis une douzaine d'années, c'est quand même assez compliqué, hein. Faut pas oublier non plus le mécontentement des supporters nantais, au moment où Domenech arrive. Là, ils craignent vraiment pour leur club et on craint même pour l'avenir. Et c'est vrai que de revoir le FC Nantes comme ça, parce qu'il est en train de faire une superbe saison en Ligue 1, les revoir en finale de Coupe de France, parce que c'est aussi un club historique du football français et l'un des meilleurs publics de France, c'est juste génial. Et c'est vrai que déjà au niveau de l'émotion, du jeu, je sais pas, mais déjà quand tu vois un Nice-Nantes finale au Stade de France, honnêtement, quand tu connais un peu le football et les coachs, t'as envie de la regarder, quoi.
Ouais, non, et pour compléter, c'est vrai que par rapport à Comboiré, c'est vrai que des fois on a l'habitude de retenir entre guillemets un peu les échecs, mais comme il a ce costume des fois de pompier, faut quand t'arrives dans
t'apprends avec les échecs aussi,
quand
hein.
Quand t'arrives dans des clubs où t'as pas l'effectif que toi tu as choisi, ça attention, c'est à mettre en avant. Et là que tu parlais des supporters, c'est vrai que Nantes pour le coup c'est quand même un club mythique, faut pas l'oublier, certes qui a pas brillé depuis
8 titres de champion quand même de France, qui ont pas brillé de France, hein,
qui ont pas brillé depuis quelques temps, mais il y a vraiment une ferveur quand tu vas à la Beaujoire, c'est vraiment, tu sens que les gens vivent pour ce club là. Et hier avec l'envahissement de terrain, tu parlais des titres, ça rappelait un peu celui de 2001 quand ils ont gagné avec les Darrocha et compagnie. Et c'est important parce que tu peux pas être au sommet toute ta vie, mais de les voir dans le ventre mou ou se battre pour les places européennes, tu te dis vraiment qu'après avoir connu des choses un peu plus difficiles, ils sont vraiment à leur place dû leur statut historique et avec les joueurs qu'ils ont, parce que tu Colomwani, Moses Simon ou encore Ludovic Blas, tu crois que c'est pas des bons joueurs, mais quand tu t'intéresses au championnat qui est la Ligue 1,
là tu as cité quand même de super joueurs et de joueurs à fort potentiel, hein.
Et une chose, c'est que aussi Antoine Comboiré, ce que j'aime bien, c'est qu'à Nantes en jeune, c'est vrai que ils ont des de très bons joueurs dans les catégories jeunes, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font la passerelle. Et là, on en voit de plus en plus, ne serait-ce que deux ou trois, c'est déjà très bien par rapport à ce que font certains autres clubs.
Non, le coach Tolé Eboula. Alors, à la suite d'Abdel.
Quand je regarde le latéral gauche, qui
on va essayer de prendre l'auditeur
du club et un pur produit de Nantes. Et moi, ce que j'ai aimé dans Antoine, c'est à la fin du match, quand il parle de Denwex et de Coco Suedo, il fait référence à tout ce que Coco Suedo et
il a transmis.
Lui a transmis. Ouais. Et il est content d'aujourd'hui de parler d'eux à ce moment où il y a eu un travail depuis deux ans de fait, où on lui a assez tiré dessus. Et après, il y a une personne qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Valdemar Quita qui a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans le club et qui a beaucoup dépensé. Et je suis content pour Quita parce que, bon, le connaissant, il s'est toujours investi pour ce club. Après, c'est sûr que dans la gestion, il y a des mecs qu'il fallait pas. Il y a une gestion comme un mec comme Gilles Favard. Je pense que il n'était pas fait pour Nantes. C'était trop un businessman de joueurs. Et quand t'as un mec comme Antoine qui arrive et qui dit voilà, c'est comme ça et ça va pas être autrement, ben la richesse du travail et la richesse de la réflexion d'Antoine, c'est ce qui les emmène en finale et les résultats en championnat.
Ouais, voilà, intelligemment.
Ouais. Il a eu cette capacité comme Boiret de. Déjà de relancer certains jeunes, comme tu l'as dit, Boula, le latéral gauche, l'attaquant également, de la formation. Faut pas oublier que Nantes, dans les années 80, surtout 90, ils sont proches du dépôt de bilan. Et c'est la génération Pedros, Loco, Carambeu, ouais. Makelele, début des années 90.
Nicolas Wedek.
Ils avaient, je sais pas, 30 matchs en défaite ou.
Ça, c'est l'année du titre. L'année du titre.
Les primes de match, ils étaient doublés à chaque fois. Oui, ils étaient doublés, mais, et c'est là qu'ils sont mis un petit peu.
Mais Boula, avant ça, donc ça c'est l'année du titre, mais il faut savoir que donc c'est l'année après le titre du PSG en 94, mais en 92-93, toi qui as suivi, à ce moment-là, voilà, on les découvre vraiment. Enfin, c'est-à-dire que là c'est vraiment le pur produit nantais, et comme Abdel le rappelait, ça a été un des pourvoyeurs du football français Nantes jusqu'à, c'est vrai qu'il y a eu un trou quand même pendant une douzaine d'années. Et là, le fait qu'ils soient capables de relancer des mecs, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est en train de renaître, et ça c'est important pour le football français.
J'avais dit à Coco Suedo une année, je m'en rappelle, il avait été champion de France et il avait Naïbet défenseur central, avant qu'il parte à la Corogne.
Très fort.
Je lui ai dit, mais comment tu fais pour te séparer d'un joueur comme ça? Il m'a dit, on était obligé de le vendre, on avait tellement une belle proposition que pour équilibrer le budget, il fallait le vendre. Et c'est vrai qu'ils avaient été champion de France, lui jouait dans l'Axe.
En 95.
Et c'est un des meilleurs défenseurs centrales de l'Afrique à son époque.
Et puis ils avaient l'un des meilleurs 10 africains, Jafet Ndoram, qui avait été monstrueux, le sorcier de Tchadir numéro 10.
Alors on va écouter Farid qui nous appelle depuis la région parisienne au 01 53 48 3000. Bonsoir Farid.
Bonsoir.
On vous écoute Farid. Alors.
Ouais, elle
n'est
pas là Vanessa.
Non, elle n'est pas là Vanessa. Aïe aïe.
Ah, je n'ai pas là Vanessa moi.
Eh ben non, là il n'y a pas Vanessa. Non, Vanessa c'est à 22h. Farid, ça fait rien. Nous on va continuer notre débat et on vous souhaite une bonne soirée. Rappelez vers 22h. Ok. Justement. Allez Abdel, avec toi, on poursuit.
Pour compléter ce que dit Claude, à partir du moment où dans l'histoire où on a dit qu'il y avait un jeu à la nantaise, etc., c'est vrai que on attend à ce qu'il y ait beaucoup de résultats sur la durée, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont connu un peu leur moment un peu difficile, un peu le trou, et je pense que après il y a toute cette connexion aussi. On parlait des supporters tout à l'heure de communication, de parler, de voir ce qu'on peut améliorer, parce que sans les supporters, c'est vrai qu'aussi le club ne peut ne pas vivre entre guillemets ou vivre les mêmes émotions. Mais après voilà, pour revenir à Nantes et au match d'hier, franchement c'était vraiment plaisant à voir. C'est pas le plus beau jeu ou etc, mais il y a de l'efficacité, il y a des choses qui sont tentées, et ça c'est à mettre à la décharge du coach. Franchement, avant, pendant des années, on pouvait se dire peut-être à Nantes, on va pas trop regarder. Là, on se dit pourquoi pas. Et c'est ce genre de parcours qui font que on se dit faut rejeter un œil sur le FC Nantes, parce que ils sont en net progrès. Ils reviennent vraiment sur le devant de la scène.
Ouais.
Non, c'est bien. Maintenant, non, moi, j'ai envie que ça perdure, parce que t'as besoin d'avoir Nantes. Moi, je sais pas, je suis curieux de savoir vraiment comment ils vont gérer les années, les saisons à venir. J'aimerais voir un Nantes moins régulier, pas un Nantes dans le ventre mou du championnat, mais un Nantes capable de jouer les places, même en, ne serait-ce en Ligue Europa, parce qu'il y a tout à Nantes. Abdel l'a dit, c'est une vraie ville de football. Hein. Faut savoir que quand tu vas au Stade Louis Fontenot, qui est le nom officiel, t'as en moyenne 30 000 personnes quand même. Pour un club qui joue pas de Coupe d'Europe, qui est milieu de tableau, il y a une vraie ferveur. Et bon, j'espère que le président de Boula va remettre les choses en ordre, parce que c'est vrai que
non, mais depuis, c'est marrant parce que quand il parle du recrutement pour les années à venir, après, ce qui est dommage, c'est je pense qu'il y a un contrat qui a mal été géré, c'est Colomoini. Voilà, Colomoini qui est en fin de contrat, qui va partir en fin de contrat, et quand tu le vois qu'aujourd'hui il est compétitif et tu sens que tu sens qu'il n'y a pas d'animosité contre lui par rapport à sa gestion, tu sens que le joueur il a envie de vider tout, se vider pour le club, pour l'entraîneur, et tu sens que Antoine dans la psychologie du joueur, tu sens que le joueur, malgré qu'il va partir, et je sais que dans la négociation c'était pas évident, mais quand je vois cette gestion que Antoine fait avec Colomoini, je pense qu'il est en train de nous mettre un joueur mais hors norme, ce qui va finir en trompe, et j'espère qu'il sera un petit peu un des joueurs clés de la finale. Hein.
Il part en Allemagne, c'est ça, non?
A priori, il a annoncé.
Il va à Francfort.
Ah, c'est ça,
c'est signé.
Alors que des clubs français le voulaient, mais visiblement
c'est. Ouais, c'est les clubs français, c'est Greg Sinobat qui s'occupe de lui avec deux trois personnes qui sont autour de lui, et il a préféré à un moment donné partir par rapport à cette proposition qu'il pouvait pas refuser.
C'est le profil un petit peu. Hein.
Allez, vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec notre invité de ce soir qui n'est autre que Karl Olive. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM après la première pause. On est toujours en compagnie de Boula et aussi le coach Tolé, sans oublier Abdel. Et oui, messieurs, on a parlé de cette Coupe de France. Alors, on va s'attarder maintenant sur l'invité de ce soir, mais aussi aller longuement sur le Paris Saint-Germain.
Time Sport. The special one.
Et oui, il est avec nous ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission, plus précisément le maire de la ville de Poissy, monsieur Karl Olive. Comment allez-vous, Karl?
Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir.
Ah ben nous aussi, Karl, vraiment. En plus, au menu de cette émission, on va parler de ce fameux Paris Saint-Germain, mais on aimerait aller s'attarder avec vous sur faire nation par le sport, justement, l'insertion des jeunes par le sport dans les quartiers. C'est vrai qu'on vous connaît, assez fin connaisseur dans le football, hein, notamment avec le petit clin d'œil à la lucarne, hein, que vous avez mis dans le 91. Ça, on l'avait bien vu avec Abdel, avec toute l'équipe de Tamsport. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'insertion, on doit le rappeler, on est bien là, Paris 2024. On approche, monsieur le maire, il faudrait faire quoi encore? Justement, c'est ma question.
D'abord, Bilal, je pense que le diagnostic qu'on peut donner, c'est que pendant l'épidémie, nos jeunes ont pris entre 5 et 4 kilos, entre 12 et 17 ans, et ça, c'est une urgence sanitaire. C'est ce que j'ai pu constater au travers de la mission qui m'a été confiée par madame la ministre de la Ville, madame la ministre des Sports et madame la ministre des collectivités territoriales. La deuxième chose, c'est que ces mêmes jeunes ont perdu 40% de leurs connaissances cognitives. Dans le même temps, nos fédérations ont perdu 50% parfois de licenciés. C'est le cas de la boxe, c'est le cas de 30% du football après le confinement, ou du badminton à 30% également, même si le foot a trouvé 15% licenciés en plus depuis ces dernières semaines. Enfin, les bénévoles ont également fondu comme neige au soleil. Et donc, on a fait un parcours sur le terrain et on est allé voir nos jeunes dans les quartiers. Et c'est formidable, enfin, vous connaissez ça comme moi, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos jeunes dans les quartiers ont envie de faire du sport, ont envie d'avoir des nouvelles pratiques. Et c'est la raison pour laquelle, typiquement, on propose par exemple d'ouvrir ce qu'on appelle des tiers-lieux. Des tiers-lieux, au pied d'immeuble, on va proposer aux bailleurs de mettre à disposition des surfaces à l'euro symbolique pour pouvoir faire du renforcement musculaire, de la boxe éducative pour les demoiselles, ou alors du football dans des espaces de proximité. On va proposer d'ouvrir le soir les écoles, les collèges, là où les enfants ou les jeunes allaient dans les maisons de quartier, on va leur proposer d'aller faire du sport justement dans les collèges et dans les très hautes écoles. Je rappelle que les écoles appartiennent aux collectivités, donc aucune difficulté pour le faire, etc. etc. On a fait 24 préconisations. La fierté qui est la mienne, Bilal, si je peux me permettre, c'est que toutes ces préconisations viennent du terrain. On a fait 120 auditions, on est allé voir tous les acteurs, direct et indirect, dans les quartiers, moi j'aime beaucoup ça, vous le savez, et en fait on a terminé quasiment par rêver. par des jeunes dans ceux qui voulaient voir Evelyne, qu'on avait une expérience de terrain magnifique qui s'appelle la Lucarne.
C'est ça.
J'y suis pas allé simplement pour mettre beaucoup de francs.
Ah non, c'est bien.
J'y suis allé pour discuter avec les jeunes. Et vous savez, enfin, vous savez bien, quand on donne un gramme à ces jeunes, ils nous en rendent en kilos. Donc c'est formidable. Et donc on a eu, bah voilà, 4,5 millions de buzz sur la Lucarne. Mais au-delà de ça, la semaine prochaine, c'est l'information que je vous donne. Nous aurons la Lucarne DD qui viendra s'exporter, première étape à Poissy, qui aura lieu le samedi 12 mars.
On le rappelle, Carl Olive, si je peux me permettre. C'est vrai, peut-être vous allez le prendre comme un compliment, en tout cas, c'en est un. Vous êtes un peu le Kennedy du sport, c'est ça. Vous allez, vous innovez, vous essayez de mettre en place, vraiment. Et aujourd'hui, en France, c'est ce que vous essayez de faire à l'approche de ces JO d'été, Paris 2024. On peut espérer avoir voilà, un renouveau, en tout cas, parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on nous assène à nous dire qu'on n'est pas un pays de sport, qu'on n'a pas cette mentalité telle que l'on peut la retrouver en Espagne, en Allemagne ou encore en Italie, voire chez nos voisins british. Mais vous, voilà, vous y croyez fermement et fortement et voilà, en espérant d'apporter un renouveau. C'est bien ça, quoi.
Oui, alors merci de la comparaison avec Kennedy. J'en suis évidemment pas là. Simplement, ce que je constate, c'est que comme le disait Kennedy, ne te demande pas ce que tu peux faire pour ton pays. Ou plutôt, ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. J'ai toujours été dans cet esprit-là. Vous voyez, par exemple, cette semaine, Bilal, j'ai passé une semaine à la Fédération Française de Football avec mes amis de l'UNECATES, l'Union Nationale des Éducateurs et des Cadres de Football, qui est dont la directrice générale est Anissa Habibi, avec des intervenants comme le récent champion de la CAN avec le Sénégal, qui est Nordine Bouchira. Et c'est formidable parce que on a pu rencontrer des éducateurs au chômage qui sont pétris d'idées, qui ont plein d'idées. Alors c'est Raymond Domenech qui est le président de l'UNECATES, et moi ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est le terrain qui doit parler. Et quand on est à la rencontre de ces gens-là, quand on est à la rencontre du terrain, je peux vous dire qu'on peut pas se planter sur les idées qu'on peut proposer. Là, on a proposé 24 préconisations.
Oui.
Je vous dis ce soir sur l'antenne de Beurre FM, qu'il y en a d'ores et déjà 7 qui ont été actées et qui font partie du programme présidentiel du futur président Emmanuel Macron.
Mais ça, c'est super. On poursuit cette émission avec Carl Olive. On le rappelle, notre invité ce soir avec toi, Abdel.
En tout cas, Carl.
Alors là, c'est Boula.
C'est l'image que tu nous donnes.
L'immense Boula.
Ouais. C'est l'image que tu nous donnes quand on te rencontre dans n'importe quel endroit au niveau du sport. Et je suis content que tu parles du Covid et je suis content quand tu parles de la réflexion par rapport aux gamins et tu leur donnes cet équilibre pour récupérer psychologiquement de tout ce qu'ils ont pu vivre pendant 2 ans. Et ça, tu mets le doigt où il fallait. T'es pas comme un gars politique qui va parler pour rien dire. Au contraire, tu veux faire avancer le sport avec les jeunes et donner cette force à ces jeunes-là pour essayer de s'en sortir socialement. Et ça, c'est une de tes grosses qualités, Carl. Et moi,
après Boula, je vois comment tu travailles. Il y a un sujet qui me paraît très important et que tu connais par cœur. On se tutoie avec Boula parce qu'on se connaît bien.
Bien sûr.
J'ai fait cette mission flash qui m'a été donc confiée par Nadia et la ministre de la Ville, qui connaît très bien les quartiers également. Le point sur lequel j'ai insisté, c'est qu'il fallait absolument que tout cela soit encadré. Et soit encadré pas simplement à des gens que tu utilises ou tu claques des doigts pour qu'ils viennent encadrer des équipes de jeunes, c'est pas ça le sujet. C'est des éducateurs, et qu'ils soient formés, ces éducateurs. Et de la formation doit déboucher un emploi. Parce que si c'est simplement pour prendre un adulte relais à qui tu vas donner 800 euros par mois pendant un an, que tu vas renouveler 2 fois, et que tu ne formes pas ce jeune que tu pourrais former avec un diplôme d'éducateur sportif par exemple, avec un diplôme de bonne posture, de bonne bouffe, sur les conseils de nutrition, alors tu vas faire avancer la cause pas seulement dans les quartiers, au-delà des quartiers, tu vas faire avancer la cause d'un meilleur encadrement pour les sportifs en général en France, et donc tu vas te permettre de te donner tous les moyens pour obtenir des belles médailles aux Jeux Paralympiques et Olympiques de 2024.
Ouais.
Sinon, on sera toujours dans des balbutiements, peut-être qu'on les connaît à la fois dans les Jeux Olympiques, mais aussi dans nos clubs. La vérité, c'est que, tu le sais comme moi, Boula, en National 2, en National 3, un jour, tu vas être dans les 3 premiers, la saison suivante, tu vas être quasiment relégable.
Je suis d'accord avec toi.
Il faut absolument renforcer, pour moi, l'encadrement et les éducateurs. Ça me permet de faire un grand clin d'œil à nos amis de Versailles, qui ont compris ça peut-être avant les autres.
On les avait reçus aussi dans cette
antenne. Alors, Boula, ce qui est bien dans le travail du sport, et ce qui est bien au travail des clubs, c'est que quand tu vois le club de Poissy,
ou le club de Versailles, quand tu regardes les salaires de certains joueurs ou tu regardes, la différence c'est que toi, t'as pas que le foot, il y a pas que le foot. Et ce qui est bien chez toi, c'est que le budget, faut que ça profite à tous les sports. Et tu peux pas à un moment donné plus à l'autre ou à l'autre. T'es au niveau de la gestion, je pense que tu fais attention à ta ville et tu fais attention à ce que comment l'argent tu veux pas retrouver comme Fleury à retrouver des salaires à 5000 ou 6000 ou 7000 euros en N2 ou en N3. Je pense que c'est plus une philosophie de construire un club avec des vraies valeurs que construire avec un club à travers l'oseille.
Alors, deux choses sur le sujet.
Oui.
La première, c'est que évidemment les associations, c'est pour moi un creuset social et une mixité sociale qui est en or massif. Et c'est la raison pour laquelle, tu le dis, je ne vais pas toucher l'enveloppe de 2 millions sur les quelques 200 associations qu'on a voici, sportives, culturelles, de loisirs, etc. Les anciens combattants, par exemple. En revanche, je suis peut-être un peu plus sévère que toi, Boula, sur l'enveloppe globale qu'on donne aujourd'hui, notamment dans le club de sport, de foot, par exemple. Je pense qu'on donne la plus grosse subvention d'Île-de-France à nos clubs de foot en tant que statut amateur. On donne entre 300 et 350 000 euros. C'est trop. C'est trop. Et il faut que ça change. Il faut que ça change.
C'est ce que je te dis.
Oui, mais et je pense que c'est encore trop. C'est beaucoup trop. Je disais à l'instant que j'ai fait la semaine avec une Ecatef. Il y a des clubs bretons, Plabennec par exemple, contre qui Poissy va jouer samedi. Il y a un contrat fédéral. À Poissy, il y a jusqu'à 15 contrats fédéraux. C'est pas possible. À Poissy, parfois, et c'est arrivé, des jeunes qui allaient pleurer dans le vestiaire et qui connaissaient les entraîneurs parce qu'ils avaient mal aux genoux, à qui il fallait donner 100 euros supplémentaires et ils couraient comme des lapins. Ouais. C'est pas possible.
Il n'y a pas que Boula là, dans le studio. Alors, Boula, on va revenir à toi. C'est très intéressant avec le maire de Poissy, Carl Olive, avec Abdel et le coach de Tollé. Il y a des réactions aussi qui fusent des deux côtés. Alors, Abdel, avec surtout la formation, Abdel.
Justement, il y a le. Vous êtes en train de parler du volet du sport. Il y a le centre de formation le nouveau centre de formation du PSG qui est en train d'être construit dans votre ville. Je voulais savoir qu'est-ce que ça va apporter justement à votre ville d'avoir ce centre de formation et pourquoi c'est la ville de Poissy qui a été choisie pour que le PSG accueille pour que vous accueillez le nouveau centre de formation.
Bilal, merci de me poser cette question parce que ça me permet de dire que on va avoir un vrai projet social avec le Paris Saint-Germain. Et on est aux antipodes de ce que je peux entendre parfois, donc merci à BFM de me poser cette question.
Ouais.
On n'est pas sur un projet du Paris Saint-Germain qui vient à côté de la ville, qui vient derrière la ville. On est avec un Paris Saint-Germain qui vient dans la ville, avec 1000 emplois pendant la durée des travaux. 1000 emplois pendant la durée des travaux. Quand vous êtes maire, on a un premier combat, c'est l'emploi. 1000 emplois pendant la durée des travaux. Pourquoi le Paris Saint-Germain est venu à Poissy? D'abord, mon idée, c'était de sauver le fait que le Paris Saint-Germain pouvait quitter le département des équipes. On ne l'oublie pas. Qui est bon pour Poissy et bon pour le territoire. C'est le fruit d'un travail collectif, c'est pas simplement le maire de Poissy qui était patron des sports de Canal qui a réussi ça. C'est le député David Douy à l'époque, c'est le président du conseil départemental de Pierre Bédier, c'est la région Île-de-France, c'est la communauté urbaine, c'est les agriculteurs et c'est les habitants. Moi je crois beaucoup au contrat social de Jean-Jacques Rousseau en 1762 qui nous disait que quand les habitants valident les projets, alors on est capable de bousculer les montagnes. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'arrivée du Paris Saint-Germain? C'est 17 terrains. C'est le football, mais c'est également le handball, c'est également le judo. C'est 250 millions d'investissements privés. C'est 2 millions pour la communauté urbaine. Et à l'arrivée, c'est 500 emplois pérennes. Et 3 mois après l'arrivée du Paris Saint-Germain à Poissy, la plus grande concession d'Europe de Porsche vient s'installer à Poissy. Alfa Romeo vient s'installer à Poissy également. Et mon petit doigt me dit que Mercedes n'est pas loin. Donc vous voyez, on est vraiment dans un écosystème où le cercle vertueux de l'économie locale vient être écrit en lettres majuscules.
Vous allez pouvoir rivaliser peut-être avec le circuit du Castellet, avec tous ces bolides qui arrivent sur... sur Poissy.
C'est absolument pas l'envie. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit simplement acteur de sa ville, pas spectateur de celle des autres.
Bien sûr.
Et ce qui est bon pour Poissy est bon pour le territoire. Et encore une fois, ne mésestimons pas qu'aujourd'hui, si on a un taux de chômage en France qui est à 7,4%, c'est aussi parce qu'on jette notre dévolu sur le développement économique.
C'est vrai.
Et pour,
on poursuit avec Abdel.
Pour poursuivre, justement, est-ce qu'il y a un partenariat avec le PSG et Poissy au niveau des jeunes et notamment pour avoir une priorité pour le recrutement si jamais il y a des bons talents dans votre ville? Est-ce qu'il y a la priorité au PSG ou quelque chose de ce genre?
Abdel, c'est exactement ça, puisque je le disais, le Paris Saint-Germain, c'est un projet social qui va s'installer dans la ville de Poissy, à côté de la ville de Poissy. Je vous donne quelques exemples par rapport à votre question. La première, c'est qu'il y aura un stade de 3000 à 5000 places. Si on a la chance de monter en national avec Poissy, on utilisera le stade une fois toutes les deux semaines. Ça, c'est formidable, on n'a pas d'installation digne de ce nom. Vous vous rendez compte? D'abord, je rappelle que le centre d'entraînement, ce n'est plus ni moins que la copie de Aspire à Doha au Qatar. C'est l'un des plus beaux centres d'entraînement du monde. La deuxième chose, c'est qu'on met des passerelles et qu'on a signé avec le Paris Saint-Germain ce qu'on appelle une convention de ressources locales. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain peut venir recruter au niveau local, ils prioriseront le niveau local. Ça, c'est formidable, y compris pour les entreprises.
Ah,
on a une passerelle également avec l'hôpital de Poissy qui est juste en face. Le Paris Saint-Germain va installer une clinique du sport et il y aura évidemment des agents de l'hôpital de Poissy qui pourront venir y travailler. Enfin, évidemment, il n'y a pas que... Et Boula le rappelait à juste titre, c'était ça Boula, lui, qui est un des champs de la formation.
Oui.
Au niveau de la formation, on a également une école Rouge et Bleu, qui est une école de décrocheurs, qui viendra s'installer au cœur du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc évidemment, quelque part, l'équipe et le club de Poissy va être sous cloche, et c'est plutôt bon accord que je dis ça, va se retrouver sous cloche avec le Paris Saint-Germain pour pouvoir prioriser, bah, pourquoi pas, des prestations du PSG pour l'équipe de Poissy qui est en National 2 et demain peut-être d'avoir des joueurs de Poissy qui puissent éclore au plus haut niveau avec le Paris Saint-Germain. C'est vraiment quelque chose de formidable. On ne mesure pas encore aujourd'hui l'impact que va avoir ce centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. J'espère bien que demain, tous les joueurs qui sont dignes de faire une belle formation n'iront plus, comme c'est le cas encore jusqu'à présent, en Bretagne,
à droite ou à gauche
pour aller chercher
et le coach
de
tous les
plus haut niveau, alors que Poissy serait
d'accord avec vous.
Et Paris Saint-Germain seront forts.
En tout cas, moi, je te félicite parce que je te dis, en termes d'image, pour le PSG, pour la ville de Poissy, je pense que depuis que tu es arrivé en tant que maire, je pense que la ville de Poissy, dans les années à venir, je pense que ce que tu mets en place, déjà au niveau du sport, même au niveau de la philosophie qu'il y a dans les quartiers, parce que j'ai un petit peu un réseau de gens de quartier qui me disent que tu es quelqu'un qu'on peut approcher facile ou que tu es ouvert dans la réflexion au niveau des jeunes. C'est ça que j'aime chez toi, Karl, parce que t'es quelqu'un de très, très, très simple. Et vu le potentiel que t'as en toi à donner tout ça à ta ville, je trouve que c'est bien. Et j'espère qu'un jour te voir finir ministre des Sports.
Ben pourquoi pas? Les années à venir.
Parce que
on est en campagne présidentielle.
T'as cette connaissance.
Monsieur Karl Olive.
Connaissance qu'on adore les sportifs de haut niveau. Mais ce qui est bien, c'est que tu as cette réflexion-là par rapport à un côté social et un côté grand de la réflexion de tout ce qui est social. Et je pense que le ministre des Sports, on aurait besoin d'un mec comme toi qui connaît bien les villes, qui connaît bien les quartiers, qui connaît bien. Et ça peut permettre aussi dans le haut niveau des joueurs comme Douillet, des gens qui ont une réflexion aussi pour grandir. Sans oublier une femme qui est, moi je trouve bien, c'est Valérie Pécresse qui a fait énormément pour... Dans la banlieue par rapport aux assos et tout, elle a débloqué pas mal de choses sur des assos qui font avancer les choses, je précise bien.
Ouais, ça c'est Boula.
Oui, Alex. C'est fort d'ailleurs, je dis souvent que moi je ne soutiens pas le président Emmanuel Macron par rapport aux autres candidats qui ont d'énormes qualités, évidemment. Je soutiens Emmanuel Macron parce que j'ai la chance de connaître Emmanuel Macron depuis des années, que je ne suis pas de ceux, et tu le sais Boula, qui vont donner l'arrivée du tiercé après la course, hein, ça c'est très facile, hein. Très facile d'aller soutenir un champion olympique quand il est champion olympique, c'est moins facile quand il est simplement des champions départementaux. Moi j'ai connu le futur président Macron, il n'était absolument pas en candidat en 2017 et j'ai toujours eu cette relation de proximité qui fait que j'ai pu ouvrir le premier centre de vaccination en France, ouvrir des écoles pour les enfants de personnel soignant grâce à la validation du président Macron, et je ne me suis jamais demandé que l'État encore une fois pouvait faire pour moi. Je me suis toujours demandé que je pouvais faire pour ma ville, et ce qui était bien pour ma ville, je pensais, et je pense toujours aujourd'hui, que c'est bien pour le pays. Et ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que la plus grande fierté aujourd'hui pour moi, c'est que 7 de mes 24 préconisations, d'ores et déjà, font partie de l'actualité des sports dans notre pays et des quartiers, et rendons à César ce qui lui appartient, c'est Nadia et la ville de la ville qui a eu cette idée au départ.
C'est Macron qui a la chance de te connaître aussi. Hein. Ouais, bah. C'est Macron aussi qui a la chance de t'avoir en tant que à tes côtés, parce que je pense que tu peux lui faire ouvrir pas mal de choses dans tout ce qui est quartier et banlieue, lui envoyer les messages qu'il faut pour faire grandir cette France qu'on a besoin dans tous les quartiers de banlieue.
Allez, pour terminer, ouais, avec Abdel, rapidement,
une dernière question. Je sais que vous êtes un ancien journaliste sportif. Est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans votre nouvelle fonction? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser par rapport à votre ancienne profession?
C'est Abdel, là?
Oui, ouais, c'est ça.
Abdel, c'est ça.
Oui. Elle est formidable, ta question, Abdel. Ouais. Juste avant de te répondre, si je peux me permettre, je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un dont je suis l'idole, enfin, qui a été mon idole depuis que je suis bon, mais qui est un mec formidable que vous connaissez. C'est Nordin Kouichi, originaire de Rouen. Je voulais faire un grand clin parce que le grand Nordin, c'est un phénomène de gentillesse.
On l'avait reçu dans l'émission.
Oui, évidemment, Abdel, c'est exceptionnel ce que tu dis parce que ça me sert au quotidien. Pourquoi? Parce que quand on est dans le sport, quand on prend sa licence à l'âge de 5 ans ou de 7 ans, on est imbibé aux règles du jeu. Tu es poussin, tu es débutant, tu es Benjamin, on t'apprend à faire une touche, une remise de touche à la main, jamais au pied. Si tu la fais au pied, ça passe à l'adversaire. Parce que tu connais les règles du jeu. Et quand on est dans le sport, on applique les règles du jeu, on les interprète pas, parce qu'on connaît les règles. La vérité, c'est que dans la collectivité, au quotidien, j'aimerais que les élus de France, quelle que soit leur sensibilité, prennent le temps de rappeler les règles aux administrés, prennent le temps de rappeler les règles aux Français, et que tout le monde ne fasse pas semblant de connaître les règles, parce que c'est le meilleur moyen de les interpréter, pardon, et puis derrière de partir dans le laxisme. J'ai horreur de ça. Ouais. Et je pense notamment une des raisons, pardonnez-moi d'être peut-être modeste, mais c'est une des raisons du résultat de 75% que je vois dans les élections municipales, c'est que quand on est dans le sport, on est dans le jeu, ou en dehors du jeu. Quand on est hors du jeu, au foot, c'est hors jeu, c'est la loi rentre, et c'est sanctionné par un coup franc direct.
Ah ben ça c'est bien dit. Carl Olive, on le rappelle, maire de Poissy, sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, dans cette émission qui est TAM Sport, 20h-21h. Un grand merci pour toutes ces belles paroles, mais aussi ces réactions vives et pleines d'humanisme.
Ouais. À bientôt les amis.
Merci à vous. Un petit clin d'œil aussi. Allez, là aux auditrices et aux auditeurs de Beurre FM, avec Diana, sans oublier Booba et Guillaume. Voilà. Une courte pause. On revient rapidement avec le Paris Saint-Germain. Oui, le coach Tolé. Oui, vas-y, le coach Tolé.
Non, Booba le.
Booba, mais non. Booba.
Ah, ok.
Booba, reste cool. Le coach Tolé, attention. Eh oui. Allez, on y va, on revient.
Time Sport revient dans un instant.
Bonjour, c'est Vanessa. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi de 22h à minuit dans Confidence. Écoute, partage, solidarité. Ensemble, nous trouverons les solutions.
Retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie, toujours en live jusqu'à 21h, 20h44 avec Abdel. Boula qui est avec nous, sans oublier le coach Tolé. Allez, on reste sur le Paris Saint-Germain.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, justement, c'est le gros tacle de Leonardo le Brésilien face à Zlatan Ibrahimovic, l'ogre suédois. Leonardo, justement, cette fois, c'est Leonardo qui lui répond dans un entretien chez nos confrères de l'équipe Boula. Je ne veux même pas répondre, l'indiscipline, elle est où? Je pense qu'il y a une raison. Si à chaque fois qu'un joueur quitte le Paris Saint-Germain, il ne peut s'empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir, et notamment Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui. Aïe, 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 le coach est olé.
Alors ça, c'est vrai que le PSG a existé avant Zlatan, hein. Je rappelle notamment les 5 demi-finales de Coupe d'Europe et la victoire en Coupe des Coupes. Après Zlatan, faut pas rentrer dans son jeu, c'est-à-dire que dans le sens, attention, c'est pas négatif. C'est que Zlatan, il a déjà, je pense que c'est quelqu'un de d'honnête. Il a un franc-parler et puis il a toujours eu cette capacité de. C'est un excellent communicant et il sait faire avec les journalistes. Donc après, faut pas. Là, pour moi, je sais pas si c'est un jeu de la part de Leonardo, mais là où il fait l'erreur, c'est ouais. justement tu le sens un petit peu aigri sur un. Mais tu dois être au-dessus de ça. Tu dois être au-dessus. T'es directeur sportif du PSG. Qu'est-ce que tu vas encore répondre ou réagir auprès d'un joueur? Laisse-le s'exprimer.
Voilà, c'est pas faux. Si. Il y a un truc où il a raison, Leonardo. Je pense que la place que Zlatan il a au PSG, il a une place de joueur qui a gagné le championnat de France, qui a pas gagné la Ligue des Champions. Maintenant, il faut qu'il sache que le PSG c'est pas Zlatan Ibrahimovic. Aujourd'hui, si Ibrahimovic il avait signé au PSG, c'est grâce à Leonardo. Leonardo, quand on a embauché Leonardo pour faire un grand club, c'est lui qui a ramené tous les joueurs qu'il fallait ramener pour que le PSG soit à l'auteur de ce que les supporters attendent. Et quand tu vois le PSG il a existé avant Zlatan. Il y a eu les Daleb, il y a eu les Safet Suzik, il y a eu les Georges Weah, il y a eu Rai, il y a eu Ginola, il y a eu
Valdo, non.
Il y a eu Valdo.
Filo Candido Valdo.
On a eu des gros joueurs avec moins de budget qu'il y a aujourd'hui. Mais faut savoir que le PSG ont ramené des grands joueurs. Il y a eu des grands joueurs au PSG de l'histoire
dont
du
lui,
football.
Dont lui.
Voilà, du football français. Et il y a eu Leonardo aussi. Il y a eu Leonardo. Aussi. Après, ce côté.
Il a pas tout marqué.
Et le problème de Ibrahimovic, son côté génie du football, certes, mais son côté où, à un moment donné, où je pense que c'est un joueur qui est dans l'émotion et que c'est un joueur que, quand il était gamin, il a été toujours livré à lui-même. Il a pas cette réflexion d'arrêter de travailler son ego. Moi, quand je vois Rai, c'est discret. Daleb, c'est discret.
C'est un jeu
de Socrate. Le jeu, à un moment donné, le jeu aujourd'hui, il y a un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé.
Ouais, Mbappé. Hein,
je pense pas qu'il va lui arriver à la cheville de ce qu'il fait au PSG.
Oui, ouais. Je suis d'accord, mais alors je reviens encore par rapport à c'est vrai que ça peut être des fois énervant, agaçant.
Ouais.
Faut quand même, après, on le prend pas, mais faut pas oublier que, très jeune, il est extrêmement critiqué. Lui, enfant d'immigré d'origine bosniaque, vivant en Suède, et en fait, il en a fait une carapace d'être toujours un petit peu en train de titiller, etc. C'est un jeu, et Boula, je sais très bien que tu connais mieux que nous l'environnement footballistique. Il a toujours été apprécié aussi de ses partenaires, et le voir quand même si bon, on sent que là, il est en fin de carrière, évoluer à 40 ans, ça montre quand même que c'est un gros travailleur, le mec.
On aime bien Zlatan, le génie. Et le génie.
Mais gros travailleur aussi.
Non, après, non, je te parle du grand joueur. Tu me dis le travailleur, certes.
Bah, à 40 ans, c'est que t'es un gros travailleur.
Oui, mais c'est une force de la nature. Non, mais après, quand tu regardes le championnat italien aujourd'hui, c'est pas le championnat italien de l'époque.
Ouais, aujourd'hui. Il a 40 ans aussi.
Oui, mais 40 ans, le gars, il joue pas tous les matchs. Faut arrêter de dire, ouais, 39 ans, 40 ans. Moi, je l'ai vu sur des matchs clés de Ligue des Champions. Il avait une pression, il n'arrivait pas à gérer.
C'est
son côté faible qu'il a dans ces grandes rencontres où il a peur, parce que malgré son côté tu vois impressionnant, mais il a un côté peureux.
C'est pour ça que je dis que c'est une carapace.
Voilà, exactement. Moi, comme il dit Claude,
c'est un
carapace.
Faux méchant.
Oui.
C'est
un faux. Ouais. Alors, on va écouter Abdel.
Après, comme vous dites, c'est vrai, c'est une carapace, mais comme quand t'as été formé comme ça et qu'à un moment donné, ça a déplu dans ta carrière, etc., et tu sais que ça peut faire réagir dans la mentalité. C'est vrai que tu peux mûrir et évoluer, mais lui, il a décidé de garder ce truc-là. Et c'est vrai, comme dit Boula, il y a des moments clés où il a pas répondu présent, donc on va lui reprocher d'avoir parlé, de ne pas avoir répondu sur le terrain. Après, à ce moment-là, le PSG, c'est vrai qu'il a pas gagné la Ligue des Champions avec, ou il a pas fait de gros parcours. Enfin, il est pas allé le plus loin qu'il pouvait, contrairement aux dernières années. Mais c'est vrai que
c'est la première figure du PSG vers son Qatar.
Justement, j'y viens. Justement, dans des nouveaux projets. Il y a des étapes, il y a des caps à passer. Je pense que au moins il a aidé à faire revenir le PSG sur le devant de la scène, à montrer que Paris était de nouveau attractif avec des joueurs étrangers qui avaient gagné pas mal de titres. Après, moi, pour revenir à Leonardo, je suis pas fan de cette sortie-là globalement dans toute l'interview. Pour moi, ça sent pas bon. Pour moi, je pense que j'ai l'impression que il dévoile tout ça, il déballe tout ça, certaines choses, même s'il y a pas de grosses exclusivités dans tout ça, mais ça sent le mec qui est un peu fatigué de son deuxième mandat, qui s'est pas passé exactement comme le premier. Et je pense que ça peut sonner le clap de fin. Je pense que pour moi, à la fin de la saison, il sera plus au PSG. Après, ça reste que mon avis personnel, parce que je pense qu'il a beaucoup donné. Et malheureusement, à chaque fois, on dirait qu'il prend plus ce plaisir-là. Avant, il venait ses premières années, il parlait quand ça allait bien ou quand ça allait pas bien. Là, oui, il parle que quand ça va pas bien, mais toujours avec ce côté un peu dur, un peu je protège mon groupe. Mais je dirais qu'il en a marre de faire ça, qu'on l'envoie souvent au casse-pipe, exactement. Et voilà, je trouve pas cette sorte. Ça me fait penser un peu à Juninho qui a parlé comme ça là juste avant de se barrer, même si c'est pas un peu la même situation. Mais je trouve ça dommage. Et surtout que ce genre de comment on appelle ça, ce genre de déclaration, ça se fait une semaine avant de jouer le Real Madrid, c'est toujours pareil. Ouais. T'as pas besoin qu'on te mette la lumière sur d'autres choses. On va parler de toi pour le foot, on n'a pas besoin de parler de toi ou du passé. Donc je suis pas fan de cette sortie et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses là. Donc je pense que voilà, c'était bien pour souffler.
Ouais. Mais dans la gestion de Leonardo, je sais pas que moi je pense que c'est un profil de directeur sportif. C'est ce qui se fait de ce qui se fait de mieux. Je pense qu'il a peut-être pas toutes les clés, surtout dans la gestion du Qatar, qui est pas évidente pour lui à gérer, parce que c'est un club d'image, c'est un club de com. C'est pas un club comme Liverpool, comment il est géré à Liverpool. Demain tu le mets quand tu vois City, comment il est géré City, c'est Guardiola qui commande tout.
Après, c'est peut-être un trop. Tu sais, c'est peut-être un. Quand je dis je suis contre, c'est que par rapport à la situation actuelle, il n'y a pas besoin de faire cette déclaration, entre guillemets. Mais je pense qu'aussi, quand tu n'as pas tous les pleins pouvoirs et que tu as envie d'essayer d'amener de nouvelles choses, quand il y a un trop plein, tu t'exprimes, ce qui reste normal, c'est la liberté. Mais je pense que le moment n'était pas judicieux pour faire une interview de 12 pages après.
Et Dieu sait que c'est calculé, hein.
Bah oui.
Le fait de l'avoir.
C'est pas le média qui lui a demandé, hein. C'est lui qui a demandé à parler. Ça, c'est, oui. C'est un grand classique quand t'as des choses à dire. Ça va très vite dans ce genre de démarche.
En tout cas, quoi qu'il arrive, Leonardo, quand il a parlé. Alors, dans la communication, il est très fort.
Oui, c'est très bien pourquoi il a parlé.
Zlatan aussi, il est fort, hein. Peut-être quelque part, il est en train de se vendre et il est en train de faire comprendre aux gens. Voilà,
c'est la période. C'est la période. Tu dis, on est à quelques jours du retour face au Real Madrid. T'arrives au mois de mars. Boulet, tu connais, hein. Tout se joue déjà là. Hein, mars, avril, tout se joue déjà. Il y a déjà les accords. Et après, on attend le mois de juin pour signer. Donc, comme le dit Abdel, c'est vrai que moi, j'ai quand même le sentiment qu'il arrive en fin de course. Et tu as le sentiment de toute manière que le PSG, quel que soit le résultat de fin de saison, a besoin
de se réinventer un petit
de
peu.
De se réinventer d'un nouveau souffle. Mais ça, est-ce que ça sera entendu là-haut? Oui, certainement, mais à quelle sauce? Ça, c'est encore une autre histoire.
On termine cette émission avec Chelsea qui est à vendre. Vous le savez très très bien, chers auditrices ou auditeurs de Beurre FM. La Première Ligue salue donc la décision d'Abrahamovic.
2 milliardaires dessus.
Le supporter le remercie. Il faut savoir, le nom du milliardaire ne figure pas pour l'instant sur la liste britannique des sanctions visant des banques, entreprises et mania pro-Kremlin après l'invasion, de l'Ukraine par la Russie. Mais la crainte d'une éventuelle saisie de ses actifs aurait poussé aussi M. Abramovic à se séparer du club londonien, comme il en a fait l'annonce officielle mercredi hier soir. Et l'oligarque russe de 55 ans, justement, s'est dit même engagé. Et dans la foulée, à faire don du produit net tout de même. Ce n'est pas rien, le coach Tolé, de la vente du club aux victimes de la guerre. Voilà. Un grand merci au coach Tolé, Abdel, sans oublier Boula, de m'avoir accompagné. Et vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Un petit clin d'œil à toutes les mamans du monde. Et on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.